Et avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Ce matin, je vous propose de commenter les propos d'Emmanuel Macron sur le passé colonial de la France. La semaine dernière, lors d'un déplacement en Algérie, le candidat à l'élection présidentielle a qualifié la colonisation française de crime contre l'humanité et de souligner que la colonisation fait partie de ce passé que la France doit regarder en face en présentant ses excuses. Des propos qui, vous le savez, ont provoqué un tollé à droite et à l'extrême droite. Il faut dire que jamais un responsable français n'avait utilisé des propos aussi forts concernant le passé colonial. En tout cas, selon un sondage publié samedi, les Français sont finalement très partagés sur les propos d'Emmanuel Macron. 51% l'approuvent et 49% ne sont pas d'accord. Alors quel regard la France doit-elle porter sur son passé colonial? Pourquoi cette question est-elle finalement si taboue? On a envie de vous entendre ce matin, vous êtes déjà nombreux au standard, des dizaines et des dizaines de réactions sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Olivier Roger du service Afrique des RFI est déjà installé, prêt à répondre à Désiré qui va intervenir dans un instant. Bonjour Olivier.
Bonjour, bonjour.
Et on accueille donc Désiré de Ouagadougou. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute. Vous avez des questions concernant la situation sécuritaire dans votre pays, le Burkina Faso?
C'est exact. Juan, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Juan, permettez-moi de vous rendre un hommage à vous et à votre équipe. Grâce à vous, nous comprenons davantage certains sujets de l'actualité.
Bah écoutez, merci de vos encouragements et je pense que l'ensemble de la rédaction des RFI est ravi de les recevoir également. Vous avez entendu quelle information qui vous interpelle?
Effectivement, Juan, comme vous le saviez, le nord du Burkina Faso est devenu la cible des djihadistes. Alors, j'ai appris que M. Ibrahim Malam Diko, il tente d'installer un réseau de djihad dans le nord du Burkina Faso. Alors, que savons-nous de M. Ibrahim Malam Diko et ses motivations?
Alors, une question, on va déjà répondre à cette question qui est pertinente puisque c'est vrai qu'il était encore inconnu il y a quelques mois. Désormais, Ibrahim Malam Diko est l'ennemi public numéro un au Burkina Faso depuis qu'il a revendiqué en décembre dernier via son groupe Ansarul Islam l'attaque qui a coûté la vie à 12 gendarmes et militaires dans la localité de Nassoumbou. Olivier Roger, que sait-on de cet homme?
Alors, on sait assez peu de choses finalement, mais les autorités burkinabées ont quand même réussi à reconstituer son parcours. Il est âgé d'une quarantaine d'années, il est né dans la province de Soum, près de la ville de Djibo, et précisément dans la localité de Soboulé. C'est un prédicateur qui s'est peu à peu radicalisé. En 2013, il avait été arrêté au Mali, dans la région de Tessalit, par les forces françaises, et ensuite emprisonné quelque temps à Bamako. Mais en 2015, il est revenu en territoire burkinabé, et a développé ses activités de prédicateur à travers une association notamment, et des émissions de radio à Djibo, des prêches de plus en plus radicales. Il s'est formé ensuite auprès du prédicateur malien Amadou Koufa. Alors Amadou Koufa, c'est l'un des fondateurs présumés du Front de Libération du Massina. Il est proche de Yad Agali, le chef historique des Ansardines. Et c'est au contact de ce Amadou Koufa que Madame Diko s'est vraiment radicalisée. De retour dans sa ville de Djibo, toujours dans cette province de Soum, il a décidé de passer à la lutte armée. Alors on ignorait l'existence de son groupe jusqu'à cette revendication en décembre dernier, cette attaque contre les hommes du groupement antiterroriste de Nassoumbou, c'est-à-dire une localité qui est située à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Djibo. Il reste donc dans ce territoire de Djibo.
Et depuis cette attaque, d'ailleurs, le groupe maintient la pression dans la région puisque régulièrement, ils se déplacent, ils vont dans les écoles et ils exigent que l'enseignement dans ces écoles soit modifié au profit des enseignements du Coran et de l'islam. Donc la pression, elle est constante. Concrètement, que cherche-t-il?
Alors ce qu'il cherche, il l'a dit plusieurs fois, il veut implanter le premier groupe djihadiste armée en territoire burkinabé. Pour l'heure, on ne sait pas encore si ce groupe est réellement implanté en sol burkinabé. ces hommes se déplacent à moto et semblent provenir à chaque fois de l'autre côté de la frontière malienne. Ils opèrent essentiellement sur cette bande frontalière. Pour l'instant, les autorités burkinabées hésitent à dire que ce groupe est constitué en territoire burkinabé parce que effectivement, ces hommes surgissent depuis la frontière, mais des éléments laissent croire quand même, vu leur réactivité, notamment la façon dont ils apparaissent dans les villages, que ces hommes commencent à avoir des implantations locales.
Désiré, vous avez une seconde question.
Oui, c'est exact. Quelles sont les mesures prises par les autorités pour empêcher cette installation ?
Alors, empêcher l'installation et plus largement lutter contre le terrorisme, Olivier Roger.
Oui, alors les autorités burkinabées ont considérablement renforcé le dispositif sécuritaire au nord du pays et le long de la frontière malienne. Elles espèrent installer une espèce de cordon sécuritaire, un string sécuritaire. Ce sont d'ailleurs des hommes du groupement antiterroriste basé à Nassoumbou qui ont été déployés. Ce sont ces hommes qui ont été attaqués en décembre dernier. Outre ce renforcement sécuritaire sur le terrain, le président du Burkina Faso, ceux du Niger et du Mali ont décidé tout récemment de créer une force mixte commune dans cette région qu'on appelle le Liptako-Gourma. La frontière entre ces trois pays va être surveillée et surtout, les forces des trois pays vont tenter de mieux coordonner leur action. Pour l'instant, le problème, c'est qu'il suffit aux djihadistes d'aller en territoire malien pour se mettre à l'abri. Mais d'après les autorités politiques du Burkina Faso, dans quelques temps, vers le mois d'avril, quand la force sera opérationnelle, ces trois pays auront installé un droit de poursuite sur le sol des pays voisins, ce qui va bien sûr renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Alors pour un droit de poursuite, bien évidemment, il faut un accord entre les trois États. Donc les pays sont en train de travailler à tout ça. Et pour affiner encore un peu plus cette lutte, eh bien le président Roch Marc Kaboré avait l'an dernier accéléré la mise en place de l'Agence nationale de renseignement qui avait été créée durant la transition. Oui. Le renseignement qui est un point très important dans cette lutte contre le djihadisme.
Désiré, on a répondu à vos questions.
Oui, je suis vraiment satisfait.
Bah, tant mieux, et je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se croiser la semaine prochaine, puisque nous serons à Ouagadougou pour l'enregistrement de deux émissions en public, et nous en profiterons d'ailleurs pour dresser un état des lieux de la situation au Burkina Faso. On parlera évidemment de la situation sécuritaire, mais aussi économique, sociale, politique, avec de nombreux invités. Donc notez déjà sur vos tablettes, mercredi 1er mars à l'Institut français, on va passer l'après-midi sur place pour enregistrer plusieurs émissions. 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions. On va s'intéresser à la mort la semaine dernière du demi-frère de Kim Jong-un, le leader du régime nord-coréen. Bangali, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, oui, Juan. Juan, j'ai appris comme ça la semaine dernière sur les antennes de la RFI. La mort du jeune demi-frère du président nord-coréen qui vivait en exil en Malaisie pendant 10 ans. Et j'aimerais savoir comme ça quelles ont été les raisons de son exil. Et ensuite, les États-Unis accusent la Corée du Nord d'être responsable de la mort du jeune demi-frère du président nord-coréen. Et j'aimerais savoir aussi sur quoi se basent les États-Unis une telle accusation.
Allez, bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Spécialiste de la Corée du Nord, auteur notamment de La Corée du Nord en 100 questions, publié aux éditions Taillandier. On va revenir dans un instant sur la thèse de cet assassinat commandité. On rappelle que le demi-frère donc du numéro 1 nord-coréen a été empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Il s'apprêtait à prendre l'avion direction Macao où il résidait une grande partie du temps. Il ne vivait pas, comme le disait à l'instant notre auditeur, en Malaisie. Il vivait à Macao et à Pékin. D'abord, pourquoi était-il en disgrâce? Pourquoi était-il obligé de vivre en exil?
Alors, c'est un exil qu'il aurait choisi. Je mets tout au conditionnel parce que rien n'est sûr avec la Corée du Nord. Alors, il y a une raison officielle. À l'origine, il avait été pressenti pour, en fait, prendre la suite de Kim Jong-il et prendre le pouvoir en Corée du Nord à sa mort. Et il se serait disgracié, il serait tombé en disgrâce à la suite d'un voyage à Tokyo, où il voulait aller à Disneyland avec sa femme et ses enfants, avec un faux passeport de la République dominicaine. Mais ça, c'est le sommet de l'iceberg. En fait, je pense qu'il y avait une rivalité profonde, et ça arrive souvent dans l'histoire de la Corée au sud et au nord, c'est historique, profonde entre deux branches familiales, la branche de Kim Jong-un, donc une autre femme, et la branche de Kim Jong-nam. Et ce fameux Kim Jong-nam, donc qui a été assassiné, aurait pris trop de pouvoir et ne collait pas trop dans l'image que veut donner le régime.
Ouais.
Mais ça ne fait pas de lui pour autant ni un réformiste, ni un opposant.
Oui, et puis en même temps, il disait, puisqu'il a accordé tout de même quelques interviews, elles étaient rares ces interviews, mais il s'est adressé à plusieurs reprises à des médias japonais ou sud-coréens, il disait n'avoir aucun intérêt pour la politique.
Il disait n'avoir aucun intérêt, mais il a également écrit un livre dans lequel il est très 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 dur avec le régime, ce qui pourrait expliquer la colère du régime, c'est-à-dire qu'il disait qu'il était très clairement contre une succession dynastique à la tête du pays, et également il était très critique envers l'actuel dirigeant Kim Jong-un, envers son demi-frère. Mais, en parallèle, continuer à prêter allégeance au régime, dire qu'il croyait en ce régime. Mais c'était peut-être aussi une façon de se protéger ou de tenter de se protéger.
Alors, tous les regards se tournent vers Pyongyang, le régime nord-coréen. A-t-il été éliminé sur ordre de son frère ? En tout cas, les agences de renseignement de la Corée du Sud et des États-Unis sont convaincus que cet assassinat a été commandité par le régime nord-coréen. Difficile à savoir, mais pour quelle raison, si toutefois cette hypothèse s'avère être exact, pour quelle raison a-t-il été assassiné ?
Alors ça reste bien évidemment extrêmement mystérieux. Pour moi, c'est une question de rivalité entre les deux branches du régime. Peut-être même Kim Jong-nam était-il lié à un soutien qui a été exécuté aussi, qui était Chang Song-taek, cet oncle qui a été exécuté, souvenez-vous, il y a 3 ans pour trahison à la nation. Ils étaient très liés, ils le soutenaient à l'origine, ça pourrait être l'une des raisons. Mais c'est peut-être aussi une sorte de signal à l'intention des autres Nord-Coréens à l'étranger, une façon de leur dire, souvenez-vous que cet été vous avez un grand dignitaire, un diplomate qui a fait Taeyang-ho, qui a fait défection en Corée du Sud, une façon de leur dire méfiez-vous, tout peut se passer. Mais dernière solution, Kim Jong-nam était plutôt un homme d'affaires un peu louche, qui, il n'y a pas d'autre terme, fricotait un petit peu avec tous les milieux, la pègre chinoise, japonaise, etc., avait des grosses dettes, n'avait plus d'argent et menait un grand train de vie avec plusieurs femmes. Il se pourrait aussi, ce n'est pas exclure totalement, qu'il ait été, que ce soit une vengeance locale.
Bon, on verra si un jour on connaîtra la vérité. Merci d'avoir été avec nous, Juliette Morillo, spécialiste de la Corée du Nord. Et on remercie évidemment Bangali de nous avoir appelé d'Abidjan. Stéphanie Schuller du service international est à mes côtés. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions concernant le vice-président du Venezuela, Souma, qu'on n'arrive plus à rappeler. La ligne vient de se couper, il est à Avignon dans le sud de la France. On devrait donc théoriquement le rappeler facilement, eh bien non, ça bloque. Revient sur les accusations des États-Unis, puisque Washington accuse le vice-président vénézuélien d'être un baron de la drogue. Washington a donc adopté des sanctions financières, les avoirs du vice-président ont été gelés sur le territoire américain. Et donc notre auditeur veut savoir de quelles preuves disposent les États-Unis pour affirmer de telles accusations.
Alors c'est une question en effet tout à fait pertinente et pas évident en fait pour y répondre. Ce qu'on peut dire, c'est que le communiqué du Trésor public américain qui a été publié lundi dernier, donc il y a une semaine, a certes détaillé assez précisément tous les faits qui sont reprochés à Tarek El-Aissami, c'est son nom, le vice-président, en matière de trafic de stupéfiants, sa responsabilité par exemple dans les transferts de la drogue vers les États-Unis ou le Mexique, la protection qu'il aurait fournie à d'autres barons de la drogue vénézuéliens mais aussi colombiens et mexicains, les versements qu'il aurait reçus pour cela et le système complexe qui lui aurait permis par la suite de blanchir cet argent sale et de l'investir à travers des entreprises écrans, mais aucune preuve n'accompagne ces affirmations. Le Trésor public explique seulement qu'elles sont le résultat d'une enquête qui a duré plusieurs années.
Ouais, mais c'est inhabituel que le Trésor public américain annonce comme ça des sanctions sans véritablement apporter de preuves ?
Non, c'est absolument pas inhabituel. C'est plutôt habituel même, Juan. Les preuves ne sont présentées en général que si un procès s'ouvre contre la personne sanctionnée. Dans le cas du vice-président vénézuélien, le Trésor public a infligé des sanctions contre lui et aussi contre l'homme d'affaires vénézuélien Brésilien Sarmak Lopes Beyo, qui est accusé par les autorités américaines d'être le bras droit d'El Aissami, celui qui se serait occupé justement de blanchir l'argent de la drogue. Mais l'administration Trump n'a pas émis de mandat d'arrêt international à leur encontre. Et donc, pour l'instant, une mise en examen n'est pas à l'ordre du jour. Ils sont même parlé évidemment d'un procès sur le sol américain lors duquel les autorités devraient vraiment présenter leurs preuves.
Oui. On a quand même une idée, Stéphanie Schuller, d'où les Américains tiennent toutes ces informations concernant les activités du vice-président vénézuélien.
Eh bien, au-delà, Juan, des informations émanant de l'enquête des différents services de renseignements américains, nous savons que d'autres barons de la drogue, arrêtés par les services américains ou expulsés aussi vers les États-Unis, ont mis les enquêteurs sur la piste de l'actuel vice-président du Venezuela. C'est par exemple le cas du trafiquant vénézuélien Walid Maclet Garcia, qui lui a parlé. Le second type de source semblerait provenir des circuits financiers et bancaires, qui souligneraient l'enrichissement, je dirais entre guillemets, anormal de l'ancien ministre El Aissami, ce qui explique aussi pourquoi il a été frappé de sanctions, comme par exemple, vous le disiez tout à l'heure, le gel de ses avoirs aux États-Unis.
Ouais. Souma nous demandait également comment les autorités vénézuéliennes ont-elles réagi à toutes ces accusations. On sait déjà, Stéphanie, que les relations sont houleuses entre Caracas et Washington. Comment ont réagi de façon officielle les autorités?
Alors, le président vénézuélien exige des excuses publiques des États-Unis et l'annulation des sanctions infligées à son numéro 2. Puis, Nicolas Maduro a prévenu, le Venezuela va répondre pas à pas à cette agression. Des menaces mises à exécution deux jours plus tard, quand le chef de l'État a annoncé avoir coupé le signal de la chaîne américaine CNN en langue espagnole au Venezuela. Depuis, le bras de fer continue et s'aggrave presque de jour en jour. Exemple, Donald Trump a demandé la libération de l'opposant vénézuélien Leopoldo López, détenu depuis 3 ans pour incitation à la violence. Et quelques jours plus tard, le tribunal suprême de justice vénézuélien a confirmé au contraire sa peine de 14 ans de prison ferme. Donc on voit que c'est pas en train de s'arranger du tout.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller du service international d'RFI d'être venue répondre à Souma qui nous appelait d'Avignon dans le sud de la France. Il est 9h26 à Paris. Ce sera la dernière question de ce jour. Guise Roser est à Libreville. Bonjour Guise Roser.
Bonjour Juan Gomez.
Vous revenez sur les récents propos d'Emmanuel Macron concernant la colonisation française.
Oui, bien sûr. Lors de son récent déplacement en Algérie, M. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle française, déclarait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Je voulais savoir, cette notion de crime contre l'humanité s'appliquerait-elle au cas algérien?
Bonne question, excellente question même. Kader Abderrahim est avec nous, bonjour. Kader Abderrahim?
Oui,
bonjour. On vous entend, ravi de vous entendre. Vous êtes chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, maître de conférences à Sciences Po. Jamais un responsable français n'avait utilisé des termes aussi forts pour qualifier le passé colonial. Quand on dit crime contre l'humanité, ça signifie qu'il pourrait y avoir de possibles poursuites judiciaires ou des réparations. Est-ce que juridiquement, ce concept de crime contre l'humanité peut s'appliquer au cas de l'Algérie et de l'Algérie française?
Oui et non. Oui, parce que d'abord, il faut rappeler que c'est pas Emmanuel Macron qui est le premier à utiliser ce terme, mais c'est un certain Michel Rocard en 1957 qui, dans un rapport sur les camps de regroupement en Algérie, parlait de quelque chose qui pourrait s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Donc vous voyez, c'est pas nouveau, ça fait maintenant précisément 60 ans. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Deuxièmement, non, d'un point de vue strictement juridique, c'est pas évidemment mon domaine, mais on sait que ça ne peut pas s'appliquer au cas algérien. Alors après, le débat est ouvert.
Mais quand vous dites, excusez-moi Kader Abderrahim, quand vous dites non, on le sait que ça ne peut pas s'appliquer au cas algérien, concrètement, est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu pour que les auditeurs comprennent?
Oui, ça peut pas s'appliquer au cas algérien parce qu'on sait que la notion de crime contre l'humanité a été définie dans le droit international comme étant une politique délibérée d'éliminer, d'extraire toute trace d'une ethnie, d'une religion ou d'une appartenance culturelle d'un pays donné, oui. Ce qui n'était pas le cas en Algérie.
Mais parmi les actes en question justement évoqués dans le concept de crime contre l'humanité, on trouve le meurtre, la déportation, la torture, le viol, ce sont des crimes qui ont été commis en Algérie.
Absolument, Absolument, et c'est vrai que c'est sur ce débat-là, sur ces questions-là que vous posez très précisément, qu'il y a cette polémique qui n'en finit pas, à la fois en Algérie et en France. Les uns ne voulant pas reconnaître, et les autres, de l'autre côté de la Méditerranée, exigeant au moins une réparation morale de la reconnaissance des crimes qui ont été commis pendant la guerre. Vous savez, c'est pas nouveau, c'est pas propre à l'Algérie. Quand il y a guerre, il y a crime.
Alors, restez en ligne, on marque une pause, on retrouve la rédaction pour le point complet sur l'actualité, et on poursuivra cette conversation et le débat avec les auditeurs.
Du 21 au 25 février, la